CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Dans ce MAG, on vous proposera une conférence au programme de ce vendredi soir du côté de Quélus, une conférence initiée par le CPIE Quercy-Garonne et une conférence autour de l'homme de Néandertal et des traces de sa présence dans le sud-ouest de la France. On regorge d'exemples. C'est une conférence gratuite, ouverte à tous, qui sera proposée par Alain Turc. Il est conservateur en chef du patrimoine, il est docteur en préhistoire. Il est habilité à diriger des recherches et il sera au bout du fil de mon téléphone pour un mag consacré à sa conférence. On le retrouve juste après la musique. Baby, put your hands on me. You got that bomb, baby.
She was the girl next door. That's my finance neighbor. If she wants some sugar, baby, don't be a stranger. And she said, when I need something sweet, I'll be coming over to you. That girl was knocking in the middle of the night, wearing nothing but a robe that she took off inside. And she said, boy, I'm getting cold, here's what I need you to do.
CFM Quélus, le MAG.
Et dans ce MAG, on vous propose une conférence du côté de Quélus. C'est organisé par le CPIE Quercy-Garonne, le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. C'est ce vendredi et c'est autour de l'homme de Néandertal dans le sud-ouest de la France. C'est une conférence proposée par le conservateur en chef du patrimoine, docteur en préhistoire, c'est-à-dire Alain Turc. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Vous êtes aussi HDR, c'est-à-dire que vous avez une habilitation à diétien recherche.
Exactement, à diriger les recherches.
Oui. Voilà. Donc vous êtes archéologue ?
Oui, oui, bien sûr. J'ai fait pas mal de terrain, de fouilles, en même temps, bien sûr.
Vous êtes notamment grand spécialiste du silex. Et c'est un peu comme ça que vous avez pisté l'homme de Néandertal. Alors avant d'en parler, c'est qui l'homme de Néandertal ?
C'est l'espèce humaine qui a été juste avant l'arrivée de l'homme moderne que nous sommes aujourd'hui. Et c'est quelqu'un avec qui on a eu des relations, puisqu'on possède une bonne partie, quelques chromosomes de cette espèce aujourd'hui totalement disparue.
Il est européen ?
Il est européen parce que tout simplement, son histoire commence comme la majorité dans des espèces humaines en Afrique. Et il va quitter l'Afrique il y a déjà de nombreuses années. Et à un moment, il va se retrouver isolé en Europe parce que tout simplement, les glaciers qui vont être très importants lors des phases les plus froides vont pratiquement bloquer la route habituelle qui se fait notamment par la Grande Plaine du nord de l'Europe. Et à ce moment-là, il va se retrouver dans un milieu fermé et il va avoir une évolution particulière, évolution qui semble aller dans le sens d'une adaptation parfaite au froid.
Alors là, vous avez axé votre conférence en particulier sur la présence de l'homme de Néandertal dans le sud-ouest de la France. Il y a des régions particulières, à part bien sûr la grotte de Bruniquel, qui marque sa présence.
Oui, la particularité du sud-ouest de la France au sens large, c'est-à-dire le Grand Bassin Aquitain, c'est l'endroit où on a été trouvé le plus de restes d'hommes de Néandertal en Europe. Donc ça montre une présence importante. Et puis en même temps, il y a de très nombreux gisements avec des sépultures. Notamment, il y a le gisement de la Ferrassie, qui est celui qui en a livré le plus pour l'Europe de l'Ouest. Il y a également le roc de Marsal. Il y en a toute une série. Donc c'est vraiment une zone privilégiée pour son étude.
Alors son étude à lui, c'est-à-dire que vous avez retrouvé des ossements ou bien plus des outils? Vous parliez de sépultures. Là, c'est vraiment une trace de civilisation, carrément.
Ah oui, c'est tout à fait... On possède maintenant beaucoup de données concernant l'individu, ses caractéristiques, mais aussi ses comportements, et également ses comportements aussi par rapport au mort, à la mort, également comment on peut gérer son territoire, comment l'a-t-il fait. Donc on a énormément de données, bien, petit à petit, les techniques évoluant, ça nous permet de se rapprocher de plus en plus de cette personne qui a vécu dans un monde un peu différent du nôtre.
C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Vous parlez de territoire en particulier. Vous avez pu le suivre un petit peu à la trace grâce au silex, hein, ce que je disais au début.
Oui, tout simplement parce qu'en définitive, les silex se forment dans des milieux particuliers et chaque milieu est caractéristique. Donc on a commencé par faire une cartographie d'à peu près maximum de gîtes de silex dans toute l'Aquitaine. Et à partir de là, on a pu les caractériser, leur donner une carte d'identité. À partir de là, pouvoir comparer ces matières premières brutes et celles qu'on a retrouvées parmi les outils de l'homme de Néandertal. Chaque outil est en fait dans une matière particulière et ça nous permet de suivre les déplacements ou les échanges de cet homme-là.
Les échanges avec qui?
Entre eux, parce qu'il faut s'imaginer que ce n'est pas un individu, c'est des petits groupes qui vivent dans cet espace qui est assez important et ils ont certainement des contacts, forcément.
Donc des échanges, ça veut dire qu'ils s'entendaient bien aussi?
Pour l'instant, on n'a aucune trace de combat chez ces individus. Mais il faut dire qu'il y avait une population qui n'était quand même pas très dense. On a beaucoup de mal à l'estimer. Mais en définitive, c'est évident que, ne serait-ce que pour les échanges génétiques, on était obligé de changer de groupe, d'avoir des échanges entre groupes.
Donc il faisait froid, il faisait très froid. Il n'y avait donc pas grand-chose à manger. Il fallait chasser et donc se déplacer. Vous avez suivi à la trace donc avec ces silex, oui, mais aussi par leurs habitats.
Oui, bien sûr. Bon, on a toute une série d'habitats. Le problème, c'est que là, on en a beaucoup plus dans les habitats. Ils ont trouvé un peu accidentellement dans les labours, des choses comme ça. On a quand même pas mal de fouilles, notamment avec le développement des fouilles préventives, c'est-à-dire qui sont faites et engagées avant des constructions de bâtiments ou de routes ou des choses comme ça. On a donc un corpus qui est très très important, une grande quantité de données, et c'est en croisant tout cela qu'on arrive à suivre un petit peu ce qui se passe. Et en définitive, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un comme tous les chasseurs-cueilleurs, puisque lui c'est un chasseur-cueilleur qui se déplace en permanence pour se nourrir.
Quels outils vous utilisez? Vous nous parliez alors de la création de cartes, ne serait-ce que trouver le gisement du silex et puis le retracer. Après, comment on date un silex?
On ne date pas un silex. Enfin, si, on le date parce qu'il y a des petits animaux fossiles qui correspondent au moment de sa formation. Mais surtout, on essaye de caractériser, c'est-à-dire est-ce qu'il contient des quartz, certaines espèces. Et ça, tout se fait à la loupe binoculaire. Au petit microscope, on caractérise chaque échantillon que l'on a et puis ensuite on arrive à faire des cartographies en sachant que ce silex couvre telle zone, l'autre telle zone et petit à petit, par zonation, on arrive à pouvoir retracer les déplacements.
Il y en a eu beaucoup, des déplacements ?
Oui, c'est en permanence. C'est en permanence, et en plus, c'est des déplacements pas au hasard. Il y a vraiment une gestion du territoire. C'est-à-dire qu'il sait exactement où il va aller, il connaît parfaitement les ressources qu'il va trouver, et donc il va faire des choix dans le peu de matériel qu'il transporte pour pouvoir être totalement autonome pendant le trajet qu'il a à faire.
On parle de quelle distance, là, à peu près ?
Ben, les trajets sont des trajets de 30-40 km, mais sur le territoire, c'est des territoires qui peuvent aller dans certaines régions. C'est peu le cas en Aquitaine, mais à plusieurs centaines de kilomètres. Chez nous, ici, c'est plutôt, disons, entre 120 km, 80 km. Voilà à peu près les distances.
C'est des grandes routes, en fait. Hein.
Oui, en fait, si vous voulez, il faut se repasser même, si on recule tout simplement au 19e siècle, hein. Quand on a créé les préfectures et sous-préfectures, c'était à une journée de marche aller-retour. On oublie qu'on marchait, quoi.
C'était en cheval, je crois. C'est une distance en cheval, non ?
Oui, c'était ça en cheval, en plus, exactement. Oui. Donc, c'est vraiment de la marche à pied comme lui.
L'homme de Néandertal dans le sud-ouest de la France. C'est le titre de la conférence que vous proposez là pour ce vendredi. On va préciser un petit peu le sud-ouest de la France avec vous. Donc, je rappelle que vous êtes conservateur en chef du patrimoine, docteur en préhistoire et que vous allez proposer cette conférence vendredi à 18h30 au Grange du Lac. Alain Turc, vous êtes invité par le CPI. On se retrouve juste après la musique pour continuer à parler de cette conférence.
Qui ne veut rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi.
CFM Keylus, le mag.
De retour dans ce mag, on est toujours en train de parler de la conférence qui est proposée par le CPIE Quercy-Garonne pour ce vendredi à Quélus, conférence autour de l'homme de Néandertal dans le sud-ouest de la France. C'est vous qui allez l'animer, Alain Turc. Je rappelle que vous êtes conservateur en chef du patrimoine, vous êtes docteur en préhistoire et archéologue, vous êtes focalisé sur le sud-ouest de la France autour de cette thématique donc de l'homme de Néandertal. Est-ce qu'on parle de la grotte de Bruniquel ?
On en parlera un peu, mais si vous voulez, ça me donne l'occasion de vous dire un peu comment je conçois cette conférence. En définitive, je vais l'orienter à partir de 4 ou 5 points où je vais faire quelques présentations, quelque chose d'assez succinct. Et le but, c'est surtout que les gens questionnent, que ce soit vraiment un échange qui va se passer avec le public. C'est-à-dire, je vais donner quelques éléments de réflexion, par exemple, sur l'homme de Néandertal, son anatomie, sa physionomie ou autre. Et puis, j'attends que les gens viennent vers moi pour tout simplement poser d'autres questions et j'essaierai d'y répondre au mieux.
Ah ben rien que pour ça, moi j'ai plein de questions de bêtes. Hein. Il faisait froid, il était poilu ?
Oui, un petit peu plus que nous, mais il faisait froid à certains moments et à des moments il avait fait très chaud aussi, enfin, presque aussi chaud qu'aujourd'hui. Oui, parce que l'homme de Néandertal, c'est l'espèce qui a duré le plus longtemps en Europe jusqu'à présent. Il a fait 300 000 ans à peu près. Donc sur 300 000 ans, le climat a beaucoup changé. On a eu des périodes très 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 froides, on a eu des périodes tempérées et d'autres un peu plus chaudes.
Et puis comme il savait servir d'outils, il savait coudre ?
Alors il ne savait pas coudre vraiment, mais il savait assembler les peaux, tout simplement. Si on fait une petite entaille sur une peau avec un lien qui peut être aussi du cuir, mais qui peut être aussi du nerf d'animal ou même des éléments végétaux, on peut rassembler et faire quelque chose de... On peut pratiquement construire des habits, hein.
Vous avez parlé de quatre axes, je vous ai coupé directement en parlant de la pilosité de l'homme de Néandertal. Quels sont-ils les autres, outre l'anatomie ?
Bon, après, ces caractéristiques anatomiques, vous voulez...
Non, vous avez parlé des quatre axes de la conférence.
Ah, les quatre axes, quatre ou cinq axes. Alors, donc, il y a donc l'individu lui-même. Ensuite, il y a quelque chose qui est important, c'est le climat. Justement, ce que je viens juste d'évoquer maintenant, parce qu'en définitive, il faut parler... les contraintes du climat qu'il a pu à subir, et puis aussi, je pense que les gens oublient trop souvent que le climat aussi, ça modifie la géographie. Par exemple, lorsqu'il fait très très froid, on allait de France en Angleterre à pied sec. Mmh. On allait vers l'océan, 200 km vers l'ouest, à Bordeaux. Vous voyez, quand il fait très très froid. Mmh. Donc, c'est des changements très importants, et ça aussi, il a été obligé d'en prendre compte. Quoi.
Ça, c'est pour le deuxième axe ?
Oui, le troisième axe qui va être ses territoires et ses déplacements. Et un axe important, c'est l'outillage aussi qu'il a et les méthodes de travail. Et je terminerai sur, si vous voulez, un petit peu tout ce qui est lié aux sépultures et tout ce qui est, pour nous, culturel plutôt, c'est-à-dire les sépultures, mais aussi le fait qu'il commençait à récolter des objets pour faisait de l'ornementation très certainement. On a retrouvé des vestiges d'éléments de plumes utilisés. Donc voilà, et puis on parlera de Bruniquel également.
Vous focalisez en particulier dans le sud-ouest de la France pour les fouilles que vous avez pu y mener. Et puis pourquoi il y en avait en particulier beaucoup ?
Ben, si vous voulez, la plus grosse densité de gisements correspondant à l'homme de Néandertal, elle est dans le sud-ouest de la France, tout simplement. Et il y a une raison aussi, c'est pour ça que je tenais à parler de changement climatique. Parce qu'il fait très très froid lorsqu'on est dans une glaciation. La banquise qui est tout à fait au nord, autour du pôle, elle descendait jusqu'à Londres et jusqu'à Berlin. Donc ces populations animales et humaines qui étaient là-haut, soit disparaissent, soit viennent vers le sud. Et la seule région qui s'agrandit dans l'Europe de l'Ouest, c'est le bassin aquitain, puisque la mer baisse de 50 mètres. Et à ce moment-là, ça fait une zone importante. Et puis au sud, il y a une barrière qui ne nous paraît pas aujourd'hui infranchissable, mais qui à l'époque... ne l'était pas non plus, mais qui était quand même vraiment une barrière, ce sont les Pyrénées et les Cantabres, qui étaient souvent recouverts par des glaciers en même temps. Donc ça fait un triangle dans lequel des populations animales, mais également humaines, ont dû se réfugier lors des maximums glaciaires.
Si on parle un petit peu plus de votre métier, à vous, Alain oui. Turc, est-ce que les évolutions scientifiques, technologiques, là, peuvent vous aider à retrouver encore plus de traces, plus de matériel, en tout cas, autour de la préhistoire ?
Ben écoutez, moi j'ai vécu pas mal de ces modifications, si vous voulez. D'abord, il y a des concepts qui changent. Par exemple, quand j'ai commencé, on cherchait, lorsqu'on trouvait un silex, à le classer, à savoir quel type d'outil c'était ou pas. Bon, on a commencé ensuite après à essayer de réfléchir à comment il a été fabriqué, qu'est-ce qu'il nous dit de ce qu'il a fait. On a pu utiliser des méthodes de lecture des traces qu'on n'avait pas avant. On s'est mis à travailler sur tout ce qui est maintenant l'origine, et ça, c'était quand même quelque chose d'important, parce qu'avant, on classait, puis on ne savait pas trop comment il se déplaçait. Et puis après, il y a les grandes révolutions qui continuent et qui se modifient pratiquement toutes les semaines. Mmh. C'est les données liées à l'ADN. Mmh. Puis j'ai oublié aussi les données aussi, parce qu'au début, on n'avait aucun moyen de dater le Moustanien jusqu'en 1960 à peu près. Pratiquement rien, il n'y avait pas de méthode. On avait le carbone 14, mais qui s'arrêtait juste quand Néandertal finissait. Et après, là, on a maintenant toute une panoplie de systèmes de datation qui nous permettent de positionner les gisements les uns par rapport aux autres.
Et alors, vous faites des retours sur ce que vous aviez trouvé quelques décennies d'avant pour essayer de mieux comprendre ce que vous avez trouvé ?
Ah, bien sûr. Il y a une grosse politique qui a été mise en place maintenant, il y a près d'une 30 à 40 ans, c'est de revisiter les gisements qui ont été fouillés anciennement. Pour ma part, j'ai fait ça sur le gisement de la Ferracie. J'ai fait ça dans d'autres sites, mais il y a beaucoup de collègues qui font ça, parce que les gisements avaient été fouillés, mais les méthodes de fouille ont profondément changé. Et surtout, ça nous permet de dater ces gisements et de porter plein de compléments d'informations. Par exemple, vous parliez de Bruniquel. Bruniquel a été découvert il y a déjà pas mal d'années, et on ne pouvait rien faire tant qu'on n'avait pas les méthodes de datation, comme ça a pu être fait maintenant sur la calcite qui recouvre cette structure.
C'est une conférence où vous allez parler donc de la présence de l'homme de Néandertal dans le sud-ouest de la France. Est-ce qu'on peut vous demander, avant de se quitter, peut-être les principales surprises que vous avez pu avoir dans votre carrière ? Je sais que la question est difficile.
Oui, des surprises, je pense que c'est... parce que bon, j'étais parmi un des premiers à travailler sur les matières premières. Je ne pensais pas qu'on puisse arriver au résultat que l'on arrive aujourd'hui. Et puis surtout, la grande surprise, c'est les possibilités de l'ADN. C'est-à-dire que maintenant, on arrive pratiquement à connaître, par exemple, en Espagne, on a un gisement et les travaux qui ont été faits sur plusieurs restes d'un Néandertal qui est là montrent qu'en définitive, c'était un groupe qui était certainement dirigé par des femmes, puisque tous les ADN extérieurs, ce sont que les hommes, et les femmes sont toutes du même groupe.
Ah, du coup, on allait chasser son époux dans les tribus extérieures.
Voilà, peut-être, oui, pourquoi pas. Enfin, si vous voulez, vous voyez, on arrive à des résultats qui étaient totalement insoupçonnables il y a une dizaine d'années.
Est-ce que vous avez fait des recherches autour de l'art ?
Alors, sur l'art, il y a très peu de choses, mais on en parlera un tout petit peu, parce qu'en définitive, pour l'instant, on n'a aucune preuve directe. Il y a quelques éléments en Espagne qui pourraient indiquer que peut-être Néandertal a au moins laissé des traces de main à certains endroits. Il y a aussi quelques traits plus ou moins, mais... Le problème, c'est qu'on n'a que l'art pariétal qui nous est conservé. Il devait y avoir eu de l'art qui a dû se faire notamment sur des dépôts, pourquoi pas sur du bois. Et ça, malheureusement, c'est jamais conservé. Par contre, ce que l'on sait, c'est que l'homme de Néandertal utilisait des colorants. Mais ce n'est pas parce qu'on va trouver un morceau de colorant qu'il s'en est servi pour l'art. Par exemple, si j'utilise de l'ocre rouge, ça sert aussi à tanner les peaux. Donc, vous voyez, toujours, des fois, l'emploi peut être ambivalent, quoi, c'est-à-dire pour l'un ou pour l'autre, sans qu'on puisse trancher définitivement.
C'est quoi les dates précises de la présence de l'homme de Néandertal ?
Ben, Néandertal commence à apparaître il y a à peu près 300-350 000 ans, et il va disparaître selon les zones. Les zones, par exemple, il va disparaître un peu plus tôt en France, récemment, aux alentours de 40-45 000 ans, et en Espagne, il va perdurer un petit peu dans le sud, peut-être jusqu'à 35 000 ans à peu près.
Il a vécu hyper longtemps.
Espérons qu'on fera autant, mais c'est pas encore gagné. Hein.
Voilà, on va se quitter là-dessus. En tout cas, la conférence de ce vendredi est gratuite. On pourra vous entendre pour toute une séance de questions-réponses hein, au Grange du Lac. À Caylus, il vaut mieux réserver ses places auprès du CPIE, car Cigarron, la thématique, c'est l'homme de Néandertal dans le sud-ouest de la France. Et à l'intérieur, vous allez nous proposer plein de pistes de réflexion. Tout un échange de discussions avec vous, donc conservateur en chef du patrimoine. Vous êtes docteur en préhistoire et habilité à, j'ai oublié, de recherche. C'est quoi, HDR ?
Voilà, exactement. HDR, habilité à diriger des recherches.
Donc voilà. Vous faites des fouilles.
Oui, j'en ai eu fait maintenant, j'exploite les données de fouilles.
Merci beaucoup, Alain Turc. Et à vendredi, alors.
Oui, à vendredi, avec grand plaisir.
Et merci à tous de nous avoir suivis tout au long de ce mag qui sera rediffusé comme d'habitude à 18h et à 21h. Vous pouvez aussi le réécouter en podcast sur notre site internet cfmradio.fr. Le mag se poursuit juste après les infos, mais depuis CFM Montauban avec Rémi.